France Musique.
Un mec légendaire, quoi. Les gens de sa partie l'appellent le Darbe et enlèvent leur chapeau rien qu'en entendant son blaze.
Bonsoir à tous et bienvenue sur France Musique. Ce soir, dans les blases du jazz, on embarque sur l'Arche de Noé pour une croisière en compagnie de jazzmen qui ont pour surnom un nom d'animal. Ils sont nombreux dans ce cas, vous allez voir. On va croiser le chemin notamment d'un lapin, d'une mule, d'un lion, d'une grenouille et de deux adorables petits chats. Everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat. Knows where it's at. Tell me everybody's picking up on that feline beat, 'cause everything else is obsolete. A square with a horn makes you wish you weren't born every time he plays. But with a square in the act, you can set music back to the caveman days of jumble. I've heard some corny birds who tried to sing. Still, a cat's the only cat who knows how to swing. Who wants to dick long head geek and stuff like that? When everybody wants to be a cat, a square with a horn makes you wish you weren't born every time he plays. Oh, a rinky tinky dinky with a square in the act, you can set music back to the caveman days.
Oh, a rinky tinky tinky.
Everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat who knows where it's at. When playing jazz, you always has a welcome mat, 'cause everybody digs a swinging cat. Le rapprochement entre les chats et le jazz ne date pas d'hier. Dans les années 30 et 40, un chat, dans l'argot des jazzmen, ça voulait dire un musicien de jazz. Est-ce que c'est parce que les jazzmen vivent la nuit comme les chats? Est-ce que c'est parce qu'ils retombent sur leurs pattes quand ils improvisent, ou est-ce que c'est parce qu'ils jouent avec la partition comme une souris? Mystère et boule de gomme. En tout cas, puisqu'on parle de jazz et de chats, je ne peux pas ne pas vous parler de la baronne Pannonica. La baronne Pannonica de Königswarter, ou Nika pour les intimes, c'est une riche héritière issue de la famille Rothschild qui est devenue dans les années 60 à la fois l'amie, la mécène et la protectrice des plus grands jazzmen américains. Art Blakey, Bill Evans, Mack Roach, Paul Chambers, Charlie Parker, ils ont tous défilé dans sa grande maison de Manhattan, une maison qui avait été rebaptisée la Cat House parce que Nika y vivait avec 122 chats. La baronne a offert aux musiciens un toit, un lieu où ils pouvaient jouer en toute liberté, et eux lui ont dédié des morceaux. En tout, Nika est dédicataire de plus d'une dizaine de thèmes, dont notamment ce Nika signé Sonny Clarke. C'est la baronne herself qui va vous annoncer le line-up.
Next we have Nika by Sonny Clarke, with George Duvivier on bass and Mack Roach on drums. Thank you.
Avec son Polaroid, Nika va prendre en photo pratiquement tous les musiciens qui seront de passage chez elle. Et elle leur posera la question « Si tu pouvais réaliser 3 vœux, qu'est-ce que tu choisirais ?» Les réponses à cette question et les photos des musiciens ont été réunies dans le livre « Les musiciens de jazz et leurs 3 vœux » paru chez Buchet-Chastel. Les réponses en disent long sur les désirs profonds des grands du jazz de l'époque. Armstrong aurait aimé avoir « toujours la santé, c'est ça la vraie richesse », dira-t-il. Marilou Williams désirerait « aimer Dieu davantage ». Coltrane espère « avoir une éternelle fraîcheur dans sa musique et 3 fois sa puissance sexuelle d'alors ». Et Miles, lui, rêverait tout simplement d'être blanc. La baronne Panonica formulera elle aussi un vœu que ses enfants exauceront à sa mort. Elle demandera que ses cendres soient répandues dans le fleuve Hudson, en face de sa maison, et autour de minuit, comme dans le titre de Thelonious Monk, « Round Midnight ». Pas à nos moutons, mais à nos chats. Le tout premier cat du jazz, c'est le trompettiste William Alonzo Anderson, dit Cat Anderson. Cat Anderson est né en 1916. À l'âge de 4 ans, il perd ses 2 parents et entre à l'orphelinat Jenkins. C'est là qu'il va apprendre la trompette, qu'il va donner ses premiers concerts et qu'il va faire ses premières tournées avec l'orchestre de l'orphelinat. Dans les années 30, il va jouer dans tout un tas d'orchestres comme les Carolina Cotton Pickers, le Sunset Royal ou le grand orchestre de Lionel Hampton. Un de ses grands atouts, c'est qu'il a un jeu particulièrement nuancé. Il y a 2 techniques en particulier qu'il utilise énormément et qui lui permettent de moduler son timbre. Il y a d'abord la half-valve technique qui consiste à abaisser les pistons de l'instrument seulement à moitié, ce qui crée une sorte de glissando et donne l'impression que sa trompette rit ou pleure. Est aussi le pro de la sourdine plunger. Plunger en anglais, ça veut dire ventouse, et cette sourdine s'appelle comme ça parce qu'à l'origine, les jazzmen se servaient tout simplement de ventouses à déboucher les éviers. La plunger se tient à la main, contre le pavillon, et quand on l'écarte du pavillon, le son produit ressemble à une sorte de wah wah. Autre grand atout de Cat Anderson, celui qui va le rendre célèbre et qui va devenir en quelque sorte sa signature, c'est son aisance dans le registre suraigu. À une époque où ce registre était quasi jamais exploité par les trompettistes, Cat Anderson, lui, va l'explorer. Il va parvenir à couvrir 5 octaves et à atteindre des notes qui seront rarement égalées. En 1944, Duke Ellington, épaté par ses exploits dans le suraigu, l'engage dans son orchestre. C'est là que Cat Anderson va démontrer toute l'étendue de son talent. Duke lui offre des partitions qui laissent de la place à ses envolées stratosphériques, comme dans ce Jam with Sam.
Thank you.
Quand on entend William Alonzo Anderson jouer ses notes suraiguës, on se dit que c'est peut-être pour ça qu'il a été rebaptisé Cat Anderson. On se dit que c'est sans doute parce qu'il arrivait à produire des miaulements avec sa trompette qu'on l'a rebaptisé comme ça. Eh bien, pas du tout. En fait, le surnom de Cat Anderson, ce sont ses copains de l'orphelinat Jenkins qui le lui ont donné quand il était jeune, parce qu'ils trouvaient qu'il se battait comme un chat. Je ne sais pas si Cat Anderson a trouvé ça flatteur, qu'on lui dise qu'il se battait comme un chat, mais le surnom, lui, n'a pas eu l'air de lui déplaire puisqu'il le gardera toute sa vie. Et que parmi ses différentes compositions, on trouve, entre autres, « The Cat Humps »,« Cat Speaks »,« The Prowling Cat »,« Swinging the Cat » et « El Gato », le chat en espagnol, que voici tout de suite. Cat Anderson est aux côtés de l'orchestre de Duke Ellington. El Gato par le grand orchestre de Duke Ellington et le trompettiste Cat Anderson. El Gato, c'est aussi le surnom d'un autre chat du jazz. Il est saxophoniste, il s'appelle Leandro Barbieri et son blaze, c'est Gato Barbieri. Gato Barbieri est né à Rosario, en Argentine, le 28 novembre 1932. Ses parents ne sont pas très fortunés, mais ils sont tous les deux mélomanes, alors ils décident d'envoyer leurs enfants à la Infancia Desvalida, l'enfance démunie. C'est une institution où ils apprennent tous les deux la musique. Gato Barbieri va d'abord apprendre le violon, puis la clarinette, et un jour, à la radio, il entend « Now's the Time » de Charlie Parker. Gato Barbieri troque sa clarinette contre un saxophone alto, puis son saxophone alto contre un saxophone ténor. Il va se mettre à écumer les bars de jazz la nuit en quête de jam. On est dans les années 50, Leandro Barbieri a 18 ans à peine, et c'est là qu'on va commencer à l'appeler El Gato, pour sa façon de se faufiler furtivement d'un gig à l'autre avec son saxophone à la main. Ce surnom, El Gato, lui va comme un gant, parce que Gato Barbieri n'a certes pas eu 9 vies comme les chats, mais en revanche, il est ressuscité musicalement à de très nombreuses reprises. Sa première vie musicale, il va la consacrer au free jazz, ou plutôt à la free music, puisqu'il avait horreur du terme free jazz. On est dans les années 60, et à cette époque, Gato Barbieri va collaborer avec de grandes figures de l'expérimentation. Don Cherry, Carla Bley ou encore Charlie Haddon. Aux côtés de tous ces avant-gardistes, il va développer un son unique, rauque, puissant, torturé, une sorte de cri particulièrement poignant dans le titre Viva la Quince Brigada, qu'il interprète ici avec le Liberation Music Orchestra de Charlie Haddon. À la fin des années 60, le nom de Gatto Barbieri est donc associé au free jazz. Mais lui ne se reconnaît pas dans ce free jazz qui ne lui appartient pas. Alors qu'il est en plein questionnement sur son identité musicale, un metteur en scène brésilien lui souffle un conseil. Il lui dit « Tu dois faire quelque chose à partir de ce que tu connais. Tu dois en être fier et ne plus essayer de jouer ce que tu as appris à travers le colonialisme. Tu dois travailler sur ce qu'il y a de meilleur en toi, de plus vrai, sur ce que tu as de profondément latino-américain. » Gatto Barbieri va suivre son conseil et créer un jazz à son image.
Zurdo pequeño. Pandeiro. Cuica. Agogó. Tamborín. Estos seis músicos forman una batería. Una batería de escuela de samba. Bajo. Guitarra. Cavaquinho. Una batería normal. Y yo, Gatto en Brasil. Este es mi próximo álbum, Chapter 2, Latinoamérica.
Après s'être lancé dans le free jazz dans les années 60, puis dans le latin jazz dans les années 70, Gatto Barbieri va encore explorer tour à tour le pop jazz, puis le jazz rock, mais ça, je vous le raconterai une autre fois.
Les blases du jazz, Marjolaine Portier-Kaltenbach, c'est l'été sur France Musique.
On en parlait en début d'émission, dans les années 40, il y avait un mot d'argot qui voulait dire « musicien de jazz », c'était le mot « cat ». Eh bien, il y avait aussi un mot d'argot qui voulait dire « fan de jazz » et ce mot, c'était « alligator ». Du coup, j'ai pensé que c'était peut-être pour ça que Clarence Brown était devenu Clarence Gatemouth Brown, c'est-à-dire « gatemouth » comme « gueule d'alligator ». Mais en fait, aucun rapport avec la choucroute. Clarence Brown, si vous ne le connaissez pas, c'est un musicien touche-à-tout. Il s'est frotté à énormément de styles de musique, le blues, le jazz, la country, le rock... Et il était à l'aise avec plein d'instruments. Il savait jouer de la batterie, du violon, de la guitare, de l'harmonica et en plus, il chantait. Son surnom, Gate Mouth, gueule d'alligator, il le doit d'ailleurs à sa voix. C'est un de ses professeurs qui va le lui donner parce qu'il avait une voix grave. Je vous laisse le constater, le voici avec Lloyd Glenn au piano, Clarence Gatemouth Brown est à la guitare et au chant. Le morceau s'appelle It's Mean.
Talk to me. I know what you mean.
Clarence Brown a peut-être effectivement une voix plutôt grave, mais si lui a une voix d'alligator, on se demande à quel animal comparer la voix de Major Holly. Major Holly, vous savez, c'est ce contrebassiste qui doublait vocalement son instrument. Avant lui, son modèle, Slam Stewart, était parvenu à doubler sa contrebasse, mais une octave en dessous. Major Holly, lui, est parvenu à la doubler à l'unisson. Vous allez voir, c'est balèze.
They say me mojo, Rekita, rekita, mentre prei sol dal delirio, non so pi quel che dico, e quel che faccio. E pure dopo forza ti va, sai tu forse non. Excuse me, while I disappear.
Si je vous parle de Major Holly, vous vous en doutez, c'est parce que lui aussi avait un surnom. On l'appelait The Mule, la mule. Pourquoi la mule? Eh bien, parce qu'en 1940, il avait intégré l'orchestre de la marine et il avait pris l'habitude de porter tous les instruments des membres de l'orchestre. Clark Terry, son ami trompettiste, lui avait donc fait observer qu'il ressemblait à une mule. Voilà ce qui se passe quand on se dévoue. Bon, la mule, c'est vrai que c'est pas très flatteur, mais Major Holly va tout de même garder ce surnom toute sa vie. Et c'est même comme ça qu'il va appeler l'un de ses meilleurs albums, Mule, sur lequel on trouve cette géniale version de Angel Eyes. Jerry Wiggins est au piano, Ed Tickpen à la batterie, et Major Holly à la contrebasse et au chant.
Stay in it.
Bon, puisqu'on est dans le registre des animaux de la ferme, je vais en profiter pour vous parler de Johnny Hodges, dit The Rabbit. Johnny Hodges, c'est l'un des plus grands saxophonistes alto du middle jazz. On oublie souvent de le citer parmi les maîtres du sax alto parce qu'il a été malheureusement un peu évincé par Charlie Parker, mais pourtant, il avait tout d'un immense soliste. Un don pour l'improvisation, un son rond et chaleureux, un sens inné de l'équilibre et un vibrato parfaitement maîtrisé. Johnny Hodges va être formé dans sa jeunesse par le grand Sidney Bechet et en 1928, à l'âge de tout juste 22 ans, il intègre l'orchestre de Duke Ellington. À l'exception de 4 années pendant lesquelles il dirigera ses propres formations, Johnny Hodges va rester fidèle à Duke et son orchestre. Ils vont jouer ensemble pendant près de 40 ans et enregistrer des centaines de chefs-d'œuvre. Des standards, des blues et de nombreuses ballades, parce que Johnny Hodges était le dieu de la ballade. Quand il jouait, Johnny Hodges était totalement impassible. Son visage restait de marbre, quelle que soit la musique qu'il interprétait, et c'est une des raisons pour lesquelles on l'appelait The Rabbit. Je dis une parce qu'il y avait plusieurs explications. Selon Johnny Hodges, son surnom était dû au fait qu'il courait extrêmement vite. Selon son ami d'enfance, le saxophoniste Harry Carney, il était dû au fait que Johnny Hodges passait son temps à grignoter des sandwichs à la laitue et aux tomates. Selon certains amis musiciens, c'est parce que son impassibilité sur scène évoquait l'attitude du lapin qui s'immobilise pour ne pas se faire repérer. Et puis, selon d'autres, c'était parce qu'il ressemblait physiquement à un lapin. Personnellement, je ne trouve pas que la ressemblance soit frappante. En revanche, il y a un musicien qui a été surnommé The Frog, la grenouille, en raison de son physique, et où, pour le coup, la ressemblance est indéniable, c'est le saxophoniste Ben Webster. Le voici avec Johnny Hodges pour une rencontre au sommet entre The Frog et The Rabbit. Approche doucement de la fin de cette émission et ce serait quand même dommage de ne pas évoquer le roi des animaux. Le roi des animaux du jazz, c'est Willie the Lion Smith. Il est né en 1897, il est pianiste et il est l'un des pères du piano stride. Stride parce qu'en anglais ce mot veut dire enjambé, or la main gauche d'un pianiste de stride fait de grandes enjambées à toute vitesse sur le clavier, tandis que la main droite joue la mélodie. Quand on cherche à savoir pourquoi Willie Smith est devenu Willie the Lion Smith, on trouve, comme souvent, plusieurs explications. La première, c'est parce qu'il pousse des sortes de rugissements en jouant du piano. La deuxième explication est que son surnom serait lié au fait que Willie Smith se serait battu comme un lion sur le front français pendant la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, la troisième explication est que son surnom serait une référence au lion de Juda, parce que Willie Smith enseignait l'hébreu et il avait envisagé de devenir rabbin. Quand le critique et producteur de jazz Hugues Panassier lui demandera lors d'une interview quelle était la bonne explication. Willie Smith répondra « Tout ce qu'on dit du lion est vrai ». Et oui, parce qu'il parlait de lui à la troisième personne, comme tout lion qui se respecte, j'imagine. Pour qu'on se quitte en rugissant de plaisir, je vous propose de clore cette émission avec le duo formé par Willie the Lion Smith et le batteur Joe Jones. En 1972, ils enregistrent ensemble un disque intitulé « The Lion and the Tiger » dont est extrait ce « Fussin ».
The family, the boys in the control room, Lady Jane, Joe Jones, the one and only. This is a gasser called Fussin.
C'est la fin de cette émission Les Blases du Jazz. Merci à toute l'équipe qui m'a aidée, Claire Lagarde à la réalisation, Dophar Guéride à la technique et Emmanuel Lacaze à la préparation. Si vous avez envie de découvrir aussi pourquoi le surnom de Charlie Parker était Bird, je vous invite chaleureusement à réécouter l'émission que lui a consacrée Alex Dutil samedi 4 juillet dernier. Dimanche prochain dans Les Blases du Jazz, je vous emmènerai ripailler au restaurant, mais pour l'heure, je vous laisse en compagnie de Laurent Vallière pour 42e rue.
À réécouter sur francemusique.fr.